Alors, cette présentation s'inscrit dans les expérimentations en cours que nous réalisons dans le cadre de la chaire UNESCO portée par le professeur Luc Ria. Et ces expérimentations, dont je vais vous parler un peu plus précisément tout à l'heure, portent sur des dispositifs qu'on met en place au sein de l'établissement, au sein des établissements scolaires. Et donc, concrètement, dans plusieurs académies, nous intervenons dans les établissements scolaires pour aider les enseignants à prendre en charge collectivement les problématiques professionnelles, notamment le décrochage scolaire. Cette présentation aussi, bien évidemment, s'inscrit dans la continuité des travaux réalisés avec Jacques Méard et mon collègue Éric Flavier. Alors, la démarche consiste à installer des laboratoires de changement, on a appelé ceux-là des laboratoires de changement, des laboratoires qui sont accompagnés, mis en place par le chercheur, des laboratoires au plus près des préoccupations des enseignants. Et la finalité donc de ces laboratoires est de former les enseignants à l'analyse du travail. Et nous partons de l'hypothèse que l'appropriation des outils de l'analyse de travail peut permettre, alors des outils qui sont empruntés au domaine de recherche, peut permettre à certains enseignants de mieux comprendre ce qui se passe en classe et de mieux comprendre leurs interventions face à des élèves qui décrochent ou face à des élèves qui refusent de travailler et de mieux comprendre les difficultés professionnelles. Alors ces laboratoires de changement proposent d'articuler des observations croisées, des enregistrements filmiques, ce que vous avez vu donc ce matin, des analyses de l'activité avec le support filmique et puis la recherche conjointe des solutions. Rapidement dit, donc il s'agit de collaborer avec les professionnels et les élèves, c'est-à-dire que nous engageons, quand je suis sur le terrain, je propose des entretiens d'autoconfrontation avec les enseignants, mais également les élèves, pour essayer de croiser les points de vue sur l'activité, sur ce qui s'est passé en classe. Et la finalité également consiste à aider les professionnels et les élèves à construire un nouveau sens aux situations de travail dans lesquelles ils sont conjointement engagés. La méthodologie suit un protocole très, très précis. Donc il s'agit d'inviter les professionnels à analyser, comme vous avez pu le voir depuis ce matin, ce que vous avez fait d'ailleurs, analyser non pas votre activité, mais l'activité des pairs, l'activité des autres professionnels, pour essayer d'identifier les tensions au cœur du décrochage. Alors, là aujourd'hui, en maintenant 15 minutes, j'ai choisi de m'attarder sur les différentes étapes de ce laboratoire du changement parce que, avec lui, quand on présentait ces laboratoires, ce que nous faisons dans certains établissements scolaires, on nous renvoyait certaines questions et on constatait qu'en fin de compte, on n'était pas suffisamment précis sur le protocole qu'on mettait en place dans ces établissements. Je pense que ça peut vous intéresser. Vous êtes acteur dans les établissements scolaires. Vous travaillez de près ou de loin dans les établissements scolaires. Donc, ça peut vous intéresser. La première étape du protocole consiste donc à constituer un collectif d'enseignants volontaires. Et durant cette première étape, nous allons questionner la pratique existante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons essayer ensemble, le chercheur et les professionnels associés, essayer de questionner ce qui a été mis en place comme dispositif de lutte contre le décrochage scolaire dans l'établissement. Ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est important de partir des dispositifs, des outils qui ont été mis en place par les enseignants et d'essayer d'identifier des contradictions. Contradictions et également des problématiques professionnelles. Alors, contradiction, c'est assez vague comme terme, donc je vous propose de vous soumettre Un exemple de contradiction, donc c'est un verbatim. Cette contradiction est extraite, d'un entretien avec Naïma, une enseignante de français, et elle porte sur un dilemme qui est très très fort et qui notamment a été un dilemme qui a été repris donc dans d'autres études, mais on avait donc observé déjà en 2014 ce dilemme important. Est-ce qu'il s'agit d'aider les élèves dans la classe ou de sortir les élèves pour leur faire bénéficier de dispositifs? Je lis donc ce qu'en dit Naïma. On a vraiment l'impression de faire fonctionner deux mondes différents. Comment les élèves peuvent s'y retrouver si on ne prend pas en compte dans nos classes ce que nos élèves font dans ces dispositifs? Alors qu'on pensait les avoir un peu raccrochés aux activités scolaires, et hop, brutalement, quand ils viennent en classe, ils décrochent à nouveau. Et ça s'explique par l'absence évidente de coordination entre la classe et les dispositifs d'aide. Alors ça peut paraître évident, mais je pense que c'est une question qu'il faut continuer, je dis bien continuer, à interroger. Parce que cette question, ce dilemme face au décrochage, renvoie à deux problématiques cruciales, à mon avis. Premièrement, un décrochage situé donc au collège, situé à l'intersection de différentes activités. Un décrochage qui est donc identifié au niveau des activités, de l'activité en classe et des dispositifs. Donc la question qu'on doit se poser, c'est quelle articulation, et que les professionnels se posent très bien, quelle articulation entre les différents espaces pédagogiques quand on veut justement essayer de travailler sur le décrochage, quand on veut raccrocher les élèves, eh bien est-ce qu'on ne devrait pas d'abord réfléchir à cette articulation. Ensuite, une deuxième problématique qui est en lien avec la première, qui est un décrochage associé à des problèmes d'organisation du travail. Elle le dit bien, Naïma, dans son verbatim, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le professeur qui intervient auprès de l'élève décrocheur, qui apporte de l'aide dans sa classe, eh bien, pourrait peut-être coopérer d'une certaine façon. Je ne suis pas en train de dire que les enseignants et les professionnels ne coopèrent pas. Je suis en train de dire que c'est une problématique professionnelle. Donc, quelle coopération, quel travail collaboratif entre l'enseignant de la classe qui gère cet élève décrocheur et puis la personne qui n'est pas toujours un enseignant, la personne qui est responsable de l'accompagnement personnalisé et qui travaille également avec cet élève décrocheur. Voilà les deux problématiques que nous avons donc extraites du dilemme. La deuxième étape, suite à cet échange qui a fait émerger donc les contradictions, les problématiques, les dispositifs qui ne fonctionnaient pas, ou les dispositifs qui fonctionnaient et il fallait donc garder quelques outils pour essayer de les développer. Eh bien, nous passons à la deuxième étape et nous proposons aux enseignants, et ça ne vous est pas inconnu, puisque donc vous avez vu ce matin des vidéos, de filmer l'activité en classe, de filmer l'activité dans les dispositifs et d'analyser à deux ou à plusieurs ou tout seul avec le chercheur, eh bien, deux ou trois extraits vidéo en lien avec les contradictions qui ont émergé de la première étape. Ça me permet ici de vous donner une nouvelle fois des verbatims, de vous soumettre ces verbatims. À partir des analyses individuelles et analyses collectives, eh bien, on a travaillé avec Rose, enseignante de français, qui remettait fortement en cause son intervention et notamment la mise en place d'un travail en groupe. Et elle dit donc un travail en groupe pour elle. Donc c'était la mise en place du travail en groupe, c'était son but, et le mobile, les deux mobiles, d'une part pour développer les compétences sociales, et d'autre part pour intégrer l'élève décrocheur. Donc vous voyez là, elle a mis en place un travail en groupe pour essayer de satisfaire deux mobiles. Une modalité de pratique, quand elle voit les images de son activité, quand d'ailleurs elle avait ce ressenti-là après son cours, quand elle voit donc l'opérationnalisation de ce travail en groupe, eh bien, elle dit, ça a l'effet inverse. Je vois l'élève s'amuser avec sa trousse, se lever, discuter avec d'autres, lancer des boulettes de papier, etc., etc. Suite à ce premier entretien, on a essayé donc de proposer un nouveau contexte d'échange sur cette modalité de pratique, de travail en groupe, qui apparaissait donc inefficace. Cette notion d'efficacité est très importante. Vous l'avez notamment, peut-être pas explicitement, mais mentionné tout à l'heure. Efficacité, quand l'activité, l'intervention n'est plus efficace, est-ce qu'on peut parler à ce moment-là eh bien, d'une certaine fragilité dans l'activité et une activité qui peut basculer justement eh bien, dans ce processus de décrochage. Quand j'ai proposé à Rose donc de rencontrer Lilian, Rose décrit une nouvelle fois son activité et surtout donc décrit ce travail en groupe qu'elle avait donc installé avec cette classe. Et Lilian est un professeur de technologie qui a également cet élève décrocheur dans sa classe. Et tous les deux ont porté donc la focale sur l'organisation, mais surtout sur le rapport conflictuel de l'élève avec ses pairs. Et notamment, lors des échanges, ils ont souligné eh bien, peut-être l'incapacité actuelle de l'élève décrocheur à interagir avec le groupe. À la suite de cet entretien d'autoconfrontation croisée, je suis allée voir donc les élèves du groupe où se trouvait l'élève décrocheur et ils m'ont dit, de toute façon, avec leur expression, ils m'ont dit nous on préfère ne pas nous on préfère le laisser de côté parce que, alors il faudrait que je reprenne le verbatim exact hein, et d'ailleurs je vais le faire parce que c'est quand même intéressant de s'appuyer sur les propos des élèves. Voilà, certains diront dans leur expression qu'ils flippent leur race. Autrement dit, ils ont peur. Ils ne veulent surtout pas avoir d'ennui avec cet élève qui fait rien pour travailler en groupe avec eux. Je me suis entretenue donc avec l'élève décrocheur et cet élève décrocheur m'a expliqué une nouvelle fois avec ses mots que quand il venait en classe, c'était pour recevoir l'aide de la prof et non pas des autres. Donc là, vous voyez bien, alors là, rapidement dit, durant cette étape 2, vous voyez bien que quand on veut apporter un éclairage sur un processus qui est très très complexe, un processus de décrochage, on peut s'appuyer en effet sur un regard croisé, sur une analyse croisée, des différents acteurs qui sont donc qui participent donc de ce processus, et je pense que là on en a un exemple. La troisième étape, alors à partir des analyses, des entretiens, on essaye de porter à la discussion professionnelle donc les différentes analyses pour essayer justement de provoquer une nouvelle fois donc un nouveau contexte d'échange sur ce qui a été dit sur le travail en groupe, et on essaye de voir ensemble avec différents enseignants, avec le collectif qu'on a constitué lors de la première étape, eh bien on essaye d'impulser en effet ce débat, et les analyses font l'objet d'un nouvel échange. Et c'est l'occasion également pour ces enseignants d'exprimer eh bien de nouvelles mises en œuvre. Et ça a été l'occasion, ça a été donc lors d'une rencontre en plénière, justement toujours sur cette problématique de mise en œuvre du travail en groupe, eh bien, on a parlé du dispositif en îlot. Alors, je sais très bien que le dispositif en îlot n'est pas un dispositif novateur, c'est un dispositif que l'on trouve également dans différents établissements, mais je pense que là, ils ont été progressivement amenés à parler du dispositif en îlot et en plus du dispositif en îlot à parler des élèves tuteurs. Et peut-être également, c'est pas peut-être, c'est constituer un binôme tuteur-élève et décrocheur. Ces propositions-là ont été donc étudiées, analysées, discutées, et c'était véritablement un chantier. Quand je dis un chantier à construire, c'est-à-dire que rien n'est figé. On n'est pas, quand on se rassemble dans l'étape 3, les enseignants ne disent pas « voilà, on a trouvé la solution pour raccrocher les élèves ». Non, non. On est véritablement dans une position ouverte et justement, dans cette position ouverte, eh bien, on a pu construire trois axes de réflexion. Le premier axe, c'était d'apprendre aux élèves à interagir entre eux, mais surtout d'apprendre à cet élève, eh bien, de communiquer et les autres de communiquer avec cet élève décrocheur, sans le stigmatiser, bien évidemment. Ensuite, nous avons parlé d'activités saturées. Et oui, quand on constitue un binôme tuteur-élève et décrocheur ou dispositif en îlot, eh bien, il faut véritablement donner un travail précis, des consignes précises aux élèves dans ces groupes. Et ensuite, on a parlé de la posture de l'enseignant. L'élève décrocheur qui voulait l'aide de l'enseignante, eh bien, en effet, l'intervention de l'enseignante peut à la fois donc alterner un mode central et un mode proximal, c'est-à-dire que là, elle va justement en se déplaçant près de ce binôme tuteur-élève et décrocheur, eh bien, va satisfaire les motifs de l'élève. L'élève, on n'a pas fait d'entretien après, mais l'élève va peut-être voir dans cette approche, dans ce rapprochement de l'enseignante, eh bien, une aide qui lui est destinée, pas tout particulièrement. Et puis, il y a également ce déplacement proximal, c'est-à-dire l'enseignante qui doit bien sûr construire justement cette alternance mode central et mode proximal dans la classe. Et ça n'est pas évident. Là, nous sommes sur les opérations de la posture pour construire une autre posture, une nouvelle posture. Étape 4, étape importante pour les enseignants volontaires. Ce sont les enseignants qui se proposent d'expérimenter dans leur classe ce dispositif à leur façon, avec leur classe, avec des élèves qui sont décrocheurs, qui ont été identifiés à risque de décrochage. Et on essaye, là c'est une prof d'histoire-géographie qui a essayé donc ce dispositif en îlot, a essayé de constituer des binômes, essayé également de construire des consignes très claires pour le binôme élève qui s'occupe, qui va se rapprocher de l'élève décrocheur. Donc on est là dans l'expérimentation. Et ensuite, dans ce schéma, c'est qui récapitule en quelque sorte les différentes étapes. Eh bien, vous voyez bien que à la suite des expérimentations étape 4, eh bien, on analyse ensemble à nouveau les bénéfices et le potentiel des nouvelles pratiques, c'est-à-dire des nouveaux dispositifs. Des nouveaux dispositifs de prise en charge collective des élèves décrocheurs. Alors, ce qu'on peut retenir de ce laboratoire du changement, de nos interventions dans les établissements scolaires, j'ai oublié de dire que c'était à la demande quelquefois de la rectrice ou du recteur, à la demande également du chef d'établissement ou d'un inspecteur, et puis à la demande surtout des professionnels. Donc la demande, vous voyez, elle a de différentes origines, mais nous intervenons donc pour répondre à une demande, justement. Alors, quel coût et quel bénéfice de ce laboratoire du changement? Le coût, c'est notamment l'espace et le temps qu'il faut aux enseignants, qu'il faut trouver, et pour justement faire des analyses, pour justement essayer de se filmer, d'enregistrement, d'avoir ces observations croisées. Ça, je le mets là, mais je ne suis pas convaincue en fin de compte. Je vous le soumets. Et c'est justement pour peut-être lancer un débat, mais je ne suis pas si convaincue, parce que c'est quelque chose qu'on nous renvoie à chaque fois quand on présente nos dispositifs, et on nous dit souvent « oui, mais en REP, on a du temps, il y a des heures de concertation, vous pouvez faire ça sur le temps de formation locale, etc. etc. » Je pense que l'expérience et les différentes expérimentations dans différentes académies ne nous renvoient pas ce facteur, ou en tous les cas ce facteur n'est pas prioritairement à retenir, puisque essentiellement, si nos interventions réussissent, c'est grâce à l'impulsion qui est donnée par le chef d'établissement, à des choix qui sont faits, à des espaces qui sont mis en place, à des heures de concertation qui peuvent en effet permettre aux enseignants de parler de leur travail lorsqu'ils sont confrontés à des élèves décrocheurs. Et là, je vois bien, j'ai réussi. C'est-à-dire, je vous fais parler. Et donc, j'en suis contente. Mais restez actifs encore pendant trois diapositives. Et je vous laisserai la parole. Les bénéfices. Un des bénéfices qu'on a pu noter, c'est notamment cet intérêt collectif. Intérêt collectif pour une analyse approfondie. Ça veut dire quoi ? Là, j'ai mis une citation d'un auteur, mais je pourrais très bien vous en parler comme ça, avec mes mots. C'est-à-dire qu'on a souvent des enseignants, des professionnels qui veulent bien faire leur travail, le faire correctement, et qui veulent trouver immédiatement, rapidement des solutions parce qu'ils travaillent dans l'urgence. Il faut comprendre également cette façon d'agir, et je pense que je les comprends et que nous les comprenons tous. Par contre, ce laboratoire de changement permet justement d'apprendre aux enseignants qui veulent bien s'impliquer dans le dispositif, d'apprendre donc à prendre le temps. À prendre le temps d'analyser les problématiques face au décrochage. Et ça, pour nous, c'est une donnée essentielle. Ensuite, comme bénéfice, nous avons l'engagement des professionnels. Quand nous travaillons avec une quinzaine d'enseignants, eh bien, ces enseignants nous disent, on est à l'origine d'eux. Ça veut dire que ça nous permet également, d'être, là, j'ai mis acteurs, décideurs et prescripteurs de leur choix, mais c'est un signe de, comme l'écrit Claude, de revitalisation du collectif de travail, c'est-à-dire un signe de dynamique collective, un signe de vitalité du collectif. Il existe ce collectif, l'engagement collectif des professionnels, et qui certainement sort certains enseignants du décrochage professionnel. Bénéfice également, rapidement dit là, donc ces nouvelles pratiques, ce dispositif qui a été, donc ces solutions, ces nouvelles actions qui sont mises en place dans les classes, eh bien ce sont des pratiques véritablement contextualisées. Si on propose ce type de travail sur le lieu du travail, c'est parce qu'à un moment donné, eh bien, on a pris en compte les problématiques, les contrats d'objectifs, etc., etc. Ça, c'est très important. Ensuite, ce qui est très important également de retenir, c'est que ces échanges se font dans des groupes interdisciplinaires, c'est-à-dire que le collectif est constitué donc d'enseignants de disciplines variées, mais également de CPE. Les CPE sont intégrés au collectif et également les assistants pédagogiques, les EAP, etc. Donc on a un collectif, comme on dit, pluricatégoriel, mais on arrive à faire fonctionner, et c'est cette pluralité, et cela donne donc, cela ouvre sur des réflexions très, très variées. Dernier bénéfice, bien sûr, c'est le bénéfice peut-être le plus important pour certains. En tous les cas, c'est un bénéfice qui compte pour moi, c'est un réel bénéfice pour les élèves. Des dispositifs, les nouveaux dispositifs qu'on essaye de monter, qu'on essaye de construire ensemble à partir des problématiques du terrain, eh bien, ce sont des dispositifs qui rencontrent les motifs des élèves décrocheurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, cet élève décrocheur, je ne veux pas dire qu'il a raccroché jusqu'au mois de juin, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, on a vu cet élève décrocheur adopter une autre attitude, et ce sont véritablement des expérimentations qui s'appuient sur la parole des décrocheurs, c'est-à-dire de ces élèves. Si on leur donne la parole, comme le dit Mériot, eh bien, on les considère comme des acteurs faisant partie de ce processus qui consiste à raccrocher les acteurs, à la fois les enseignants et les élèves. Voilà.